Miloud est slameur et jardinier. Il habite à Tabar, petite cité enclavée dans l'ensemble du Grand Mirail à Toulouse. Il met à contribution ses compétences d'écriture et de jardinage afin de mettre un peu de poésie dans les endroits abandonnés de son quartier.
Eh bien, je peux te faire un poème, là, si tu veux, qui image un peu le truc. J'ai appelé macro-cité. Carré au carré de mètres cubes coulés. Rectangle fenêtre, tous les 2 mètres, fois 4 étages, sur 800 mètres, par 200 de pâtés de béton figé. Une porte électromagnétique par bloc de 10 portes blindées. Vue barrée pour les fenêtres en rez-de-chaussée. Compilation de complications. Chômage centralisé, ruche d'abeilles sans miel, piège populaire, carré au carré de mètres cubes coulés, dédié aux générations futures, passées et présentes. Spéciale dédicace à toutes les abeilles du 31 SANS Toulouse. Ça c'est là, j'habite là, depuis tout le temps. Et j'ai vu évoluer tout ce qu'il y a autour. En fait, Toulouse m'a vu grandir et j'ai vu Toulouse s'agrandir.
Cette dalle qui forme le lien entre les diverses activités de la cité va être placée au milieu de la nature. Rien n'y sera détruit. Les châteaux resteront, comme les bois ou la petite rivière. La dalle supportant les bâtiments ouverts sur la nature fera s'avancer la ville nouvelle dans la verdure. Il n'y aura pas besoin de créer après coup des espaces verts. Ils sont déjà là et les architectes veulent les utiliser comme matériaux de la future cité.
Mais il y a un fort cloisonnement, une enclave. C'est comme une cité enclavée, quoi. C'est vachement éclat. Parce que d'un côté, tu as la rocade, avec le mur. De l'autre côté, tu as les tours de Seille, c'est la cité un peu résidentielle avec un grillage des bars, quoi, qui monte à 2,50 m. Et dedans, du Piracanta. Et au printemps, tu vois les grosses branches pleines d'épines et tout. C'est vraiment le mur, la coupure, quoi. Il n'y a pas de possibilité de interaction avec la cité. C'est vraiment, on est enclavé. Et à la sortie, et en plus, ce qui renforce cette sensation d'enclavement, c'est qu'il y a deux entrées, celle par où vous êtes arrivé, là, par la route de Seyss, près du pont. Donc c'est très étroit, on ne peut passer que par une voiture. Il y en a une autre à l'autre extrémité de la cité, c'est le chemin de Papus. Là, on peut se croiser à deux voitures. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a qu'une sortie. C'est-à-dire, tu ne peux pas ressortir en voiture par là où vous êtes rentré. Donc, si tu rentres d'un côté ou de l'autre, tu ressors toujours du même côté. C'est comme un entonnoir, c'est fermé. Moi, je prends tout le temps le sens interdit qu'il y a là-bas. Parce que j'habite là, au lieu de sortir tout le tour, faire ça, je viens là et je prends le sens interdit. Il y a 50 mètres, tu vois tout, il n'y a pas de... Et puis, tu peux t'arrêter, regarder s'il y a quelqu'un ou pas et tu passes. Et ils auraient pu mettre, c'est un truc à flèche, sens prioritaire. Comme ça se fait dans des endroits où c'est un peu étroit, ils mettent là, où on peut quand même... C'est pas obligé de mettre un sens interdit. Donc moi, c'est ma façon de lutter contre l'enfermement. Je prends le sens interdit, j'ai pris un jardin devant ma terrasse. Voilà.
Ouais, ben là, on est dans la partie... La partie un peu abandonnée de la cité, quoi. C'est une fin de zone, quoi. C'est là où on brûle les voitures. Enfin, où on brûle. Le « on », ça veut dire où il se brûle des voitures. D'ailleurs, vous allez constater, regardez le goudron. Là, tout ça, c'est des voitures brûlées. On est face à la rocade. Il y a un mur de briques face à nous. Pas assez haut. Vous entendez la rocade, ça protège pas grand-chose. Et encore... Là, on est en dessous du mur. Enfin, le mur est plus grand que nous. Mais si vous habitez là, au premier, là, ou au deuxième, la rocade, elle est à combien, là, d'ici? Elle est à 20 mètres, 30 mètres. Hein, c'est insupportable. Tu ouvres le balcon, tu peux pas. Tu as le boucan qui te rentre dans le... Donc là, le mur... comment décrire ça? Donc là, il y a une rue, un cul-de-sac... qui longe le mur, et le long du mur il y avait un bâtiment là qui a été enlevé suite à la ZF, l'explosion de la ZF, et il y a un champ, enfin une petite prairie sauvage qui a pris place, et on va vers là-bas, on va se diriger vers cette petite prairie, qui fait à peu près 150 mètres de long, 100 mètres, sur 80 mètres de large à peu près. Et c'est là que j'envisage une action verte. Entre-temps, j'ai expérimenté l'univers artistique, tout ça, le slam, tout ça, donc ça me prenait un peu de temps. Et donc je cherchais un compromis entre le jardinage et l'artistique, machin. Bien que l'artistique, j'en vivais pas. J'avais quelques cachets par-ci, par-là, mais c'était pas suffisant. Mais quand même, ça demande du travail aussi. Même si ça te nourrit pas, t'es obligé de travailler, de chercher, tu vois, ça prend du temps. Et là, bon alors, ça m'a fait, comme j'avais pas de statut d'artiste, parce que j'étais au départ, j'étais pas destiné à faire des choses artistiques ou quoi, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Et donc, quand j'ai rencontré le slam, en 2005-2006, le fait de faire des choses artistiques et d'avoir des opportunités d'être payé, souvent ça m'a mis dans une situation où j'avais pas de statut pour me faire payer, tout ça, on me demandait. Et donc j'étais obligé de passer par une association pour faire des factures, machin. Et c'est comme ça que j'ai monté une association, pour avoir un statut, quoi. Et là, maintenant, cette association, depuis peu, là, depuis le mois de juin, j'ai créé un emploi sur le support de l'association. Donc maintenant, j'ai un salaire de médiateur culturel de mon association. Ce qui veut dire que j'ai trouvé un compromis entre le jardinage, la médiation culturelle. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais bon, je suis sous ce statut-là. Grâce à cet emploi-là de médiateur culturel, et je peux consacrer du temps à préparer un spectacle ou quoi, plus qu'avant. Je suis plus sous la contrainte de l'alimentaire. Mais je garde quand même le jardinage. Voilà, c'est l'hiver. Pour faire rire, je dis que je travaille 35 heures par mois. Et sinon, au printemps et tout ça, je travaille plus, puisqu'il y a plus d'opportunités. Parce que c'est pareil, comme dans l'artistique, tu te fais connaître et tout ça. Tu as des opportunités. Dans le jardin, c'est pareil. Si tu as travaillé chez des gens qui sont contents et tout, au printemps, s'ils ont des trucs à faire, machin, ils te rappellent. Quand je me suis mis à la terrasse, avant qu'il y ait ce plot là, tu vois. Et là, je m'étais dit, tiens, j'avais un citronnier en pot, je me dis, tiens, là, j'aimerais bien planter un arbre. Et quand ils ont pété le bâtiment, ils sont venus mettre ces plots là, avec des poteaux provisoires pour l'éclairage de la rue. Ils l'ont mis juste là où je voulais planter l'arbre. Alors qu'il y avait du béton partout, ils auraient pu le mettre sur du béton. Et le peu de terre qu'il y avait, ils sont allés mettre le plot sur la terre. Donc ça m'avait énervé. Mais comme ça, c'est parce que, bon, c'était pas écrit que je voulais planter un arbre là, personne ne le savait. Et donc je l'ai planté quand même, on va aller le voir tout à l'heure, mais pas tout à fait là où je voulais. Et puis surtout que le plot, il fallait que... Enfin, il était devant moi, ça me gavait, quoi. Pour ils l'ont mis juste là, en béton, et ça fait 8 ans qu'il est là. C'est du provisoire durable. C'est des pots avec des hanches, tu sais, qui sont transportables, et c'est vraiment des trucs pour du provisoire. Donc comme c'est du provisoire qui dure, ça veut dire que rien ne change. Et on paye la taxe d'habitation ici. La dernière fois, j'avais dit, je suis taxé d'habiter là où on détaxe les entreprises. Et eh bien ici, la taxe d'habitation que nous fait payer, on n'en voit pas la couleur. On nous dit, oui, la taxe d'habitation, c'est plein de choses pour ceci, cela. Mais c'est notamment aussi pour la voirie, je crois, les aménagements, les trucs. Et quand tu vois que tous les quartiers alentours, après la ZF, tout ça, ils ont tout refait, les trottoirs, l'éclairage, tout, les villas, tout refait, machin, tous les trucs, tout bien pensé. Et à Tabar, on n'a rien vu. Et on a quoi? On a encore des plots provisoires depuis 8 ans, devant la gueule, là. Et donc c'est là l'injustice que je trouve, cette injustice de payer la taxe d'habitation quand t'es un smicard et que tu en vois même pas la couleur, tu vois, depuis 8 ans que je dois la payer et tout ça. Et bien, il n'y a rien qui a été fait, au contraire, c'est l'abandon. Donc on a l'impression d'être des citoyens de seconde catégorie. Et j'ai une phrase qui dit que le trésor doit être tout public. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde catégorie. Voilà pour le plot.
Et ce qui m'a donné envie de faire le jardin, donc c'est ça, c'est qu'il y avait un bout de terre juste en bas de ma terrasse qui part en triangle jusqu'à là-bas et que c'était à l'abandon. Un coin mort, quoi, un angle mort, vraiment mort. Il n'y avait que les deux lauriers là.
Voilà encore des rochers. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent là parce que franchement, hein, qu'est-ce qu'ils foutent là ces rochers pour protéger, pour empêcher quoi? En tout cas, ils sont là et là par contre. Si c'est pas une action verte, là plutôt ça sera voilà. Dans un lieu comme celui-ci là, avec des petits rochers là, on peut imaginer autre chose qu'une plantation, quoi. On peut imaginer une espèce d'espace où les gens peuvent s'asseoir, enfin se retrouver sous ce pin parasol là. Les rochers, ça peut être ils peuvent être modifiés pour faire des tables, enfin j'en sais rien là. Mais il y a plein de choses possibles hein, là ici. L'idéal, ce serait de faire un parc carrément, enfin un grand jardin avec des arbres, des endroits conviviaux, de rencontres et tout. Là, pour le coup, ça serait un lieu adéquat, bien qu'il y ait le bruit de la rocade. L'état de propreté, bon là, il y a eu du vent pendant quelques jours. Donc l'état de propreté, c'est plus la question de la propreté, c'est l'état de saleté là, dont il s'agit. Il y a des plastiques partout, des bouteilles, des pneus, des mousses, des... Sur un tiers de la surface, là, il y a une zone ici un peu plus sale qu'ailleurs. Mais c'est l'abandon complet, quoi. Il y a pas de... Ce qui est entretenu, c'est juste les abords, là, les rochers.
Je me suis posé la question de l'espace et tout ça, l'espace public qu'il y a autour des lieux de vie, tout ça. Et il a été. Il a pas été. On dirait qu'il a pas été pensé, ou enfin, je sais pas quoi, ou alors très mal pensé ou quoi. Moi je suis convaincu de ça de toute façon. Selon comment tu vas organiser l'espace, et sur ce que je dis là, ça voudrait dire qu'il faudrait repenser toute la cité, c'est-à-dire il y a tout à refaire pratiquement. C'est tenir compte de tout ce qui fait que les gens peuvent être bien, qu'ils aient des occasions de se rencontrer, que leurs enfants jouent devant chez eux, que tu vois, il y a des choses très simples qui soient là, qui sont nécessaires à la vie sociale, à la vie en société. Et là, non, là, on a plutôt l'impression d'un parcage plutôt que d'un lieu de vie, tu vois, comme là, l'oiseau, tout à l'heure, la cage et tout. Mais c'est ça, on est comme ça. On est dans une cage, il manque le ciel, il manque plein de choses. Je grossis un peu le truc, mais c'est pour dire que le minimum... Enfin, on n'est pas les seuls, hein. Je ne vais pas faire la victime qui se plaint là dans son trou. C'est pas la question. C'est la question que les urbanistes, les politiques et tout ça, c'est eux qui ont foutu la merde. Et il faut pas croire que si les choses, elles en sont là où elles sont, ça c'est dû au hasard, ou c'est dû aux gens, ou quoi que ce soit. Non, c'est la politique. Et la politique ne doit rien au hasard. Donc, eh bien, je suis passé à l'action. Comme j'étais jardinier, que je passe souvent par ma terrasse et tout, j'ai les outils, j'ai machin. J'ai eu des plantes que j'ai plantées, j'ai mis une haie, j'ai fait. Pour casser cette logique-là de s'approprier l'espace pour soi uniquement, j'ai pas fermé l'espace, j'ai laissé les chemins de circulation, ce qui fait que les gens peuvent passer dedans. Le jardin, c'est une écriture, un peu. Si tu fais un jardin, si tu as l'occasion, si tu as un espace où tu peux t'exprimer en plantant des plantes ou en faisant des légumes, en faisant ce que tu veux, c'est une expression aussi. Pas orale, mais c'est une forme d'expression. Et donc ça fait, c'est lié. Quand tu vas dans un jardin, ça te parle, on le dit, ça me parle. On l'entend pas, enfin on entend les oiseaux, l'eau. Mais ça parle, un jardin, comme un être humain peut parler. Et moi, en plus, quand je parle aussi du jardin. Dans mes poèmes, il y a du végétal. Je suis graine à fissurer le béton. Je veux du sol, de l'eau et du soleil. Je veux du ciel, du chaud et des abeilles. Je rame dans le fond d'un pot de benko, comme l'eau sucrée dans la noix de coco. Je veux de la branche, des fruits, des millefeuilles. Je veux ma chance, un lit sous les tilleuls. Je patienterai dans ce pot sans terreau. Je patienterai le temps qu'il faut. Une graine peut vivre aussi longtemps qu'un arbre. Je patienterai des milliers de barbes. Je patienterai, je serai de marbre. J'ai un beau projet, devenir un arbre.
C'est la place où faut être. On s'assoit là, il y a de l'argent. Et d'ici, il n'y a aucun vis-à-vis. On a l'illusion de la verdure et tout ça. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, là, du goudron, du béton, tout ça. Là, il y a de la verdure soudainement et il y a deux arbustes qui cachent la rocade, qui cachent partiellement le mur. Il y a une haie, c'est un jardin en forme de triangle un peu. Et d'ici, là où je suis assis, ce qui domine, c'est le vert. Le gazon, les plantes, enfin, ce qu'on voit le plus, c'est les plantes. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qu'on voit le moins, c'est moi. C'est-à-dire que de là où je suis, il n'y a aucun vis-à-vis, il n'y a aucune fenêtre. Et il y a une sensation d'être un peu coupé du béton. Couper du béton, voilà le mot juste. Et d'ailleurs, si on s'éloigne d'ici et qu'on va un peu plus loin sur le pont qui enjambe la rocade au niveau de la route de Seyss, quand on regarde par ici, ce jardin il est à une centaine de mètres de ça, ça fait un îlot vert au milieu de la cité, quoi. On voit une espèce d'îlot vert, voilà la sensation. Et d'ici on voit aussi la prairie, on voit les rochers anti-stationnement, gris, et la prairie où il y avait le bâtiment avant, qui n'est plus là maintenant. Et ça, on a la sensation d'un champ ressuscité, parce qu'avant la rocade, il y avait un champ là. Et moi, ça me donne cette sensation-là, de voir que le champ, un bout de champ est ressuscité.
Eh bien, d'abord, c'est les enfants qui sont venus voir, oh, on veut t'aider, j'aurais fait ramasser les cailloux, les trucs. Enfin, j'ai vu de toutes sortes de gens. Au début, on va parler de mes frères. Au départ, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ils comprenaient pas que je gaspille mon énergie à faire ça. Je dis, je gaspille rien là. C'est demain chez moi. Je gaspille pas. Je suis jardinier. Il y a un bout de terre. Je fais quelque chose. J'ai des plantes. Voilà, dans la foulée, je fais un trou, je plante. Bon, alors, c'est vrai que la terre était très pauvre. Tu vois, il y avait de l'herbe qui retenait un peu de terre sur 10 cm à peu près. Genre de compost, de trucs décomposés. Et en dessous, c'était des cailloux, enfin, il n'y avait pas assez de sol. Donc le premier travail a consisté, bon, comme c'était dénivelé, tu vois, ballonné, j'ai pu quand même avoir un lit quand même pour planter. Entre les bosses et tout, alors en enlevant l'herbe et tout ça, je les secouais les mottes pour garder la terre. Et comme j'allais étape par étape, je plantais une plante, je creusais dans la terre pourrie, là, les cailloux, j'enlevais tout. Et je récupérais de la terre sur place, ailleurs, pour pouvoir la mettre dans des conditions favorables. D'ailleurs, il n'y a rien qui a crevé dans ce que j'ai planté. Ça veut dire que c'est pas mal, parce que j'avais pas d'outils particuliers, hein, tout à la pelle et à la pioche. Et donc, avec cette conscience, enfin, avec ce savoir basique, on va dire, ce qu'il faut pour qu'une plante, quand tu la plantes, qu'elle survive. Donc il faut de la terre, c'est le minimum vital. Et donc voilà, j'ai planté petit à petit. Donc il y avait des gens, les mamies qui venaient, qui étaient contentes, qui parlaient avec moi. Oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ceci? Donc elles étaient plus farouches, bonjour, jusqu'à maintenant, tu vois. Elles ont un autre regard sur moi, on se croise, elles me font des sourires, tout ça. Et après, il y a eu les voisins qui regardent à la fenêtre, qui te prennent un peu pour une espèce de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, ils te regardent du coin de l'œil, comme ça. Et puis finalement, ils la ferment. ils n'ont rien à dire. Et les jeunes aussi. Les jeunes, ils m'ont pris pour un fou, par contre. Les jeunes de la cité, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Tout. Alors je leur ai expliqué. Je lui ai dit, tu vois là, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien. Et dans 15 jours, tu vas voir des petits points verts, petit à petit. Donc je leur disais les trucs avant que ça arrive. Et finalement, ils m'ont posé des questions, enfin machin, ils s'intéressaient. Et ils ont respecté le lieu jusqu'à maintenant. Hein. Bon, sauf certains samedis ou quoi. Bon, ils allaient ailleurs hein, pour faire ça, quand ils boivent la bière, tout ça. Ils laissaient traîner les bouteilles, les trucs du McDo, le Quick, tout ça. Ça, ils le faisaient ailleurs. Après, bon, je me suis relâché un peu, j'étais plus trop présent. Et il y a eu quelques cas de figure où ils ont laissé des bouteilles et tout ça. Mais comparé à ce que ça aurait pu être, c'est minime. C'est minime.
Alors ici, il y a une haie variée de Deliagnus, Photinia. Il y a bon, une ou deux laurières. Attends, alors que je ne dis pas de conneries. Ouais, des Eleagnus panachés aussi, notamment. Il n'y a pas beaucoup de variétés. Il y a 3-4 variétés dans la haie. Ensuite, il y a. Je suis pas très... je suis jardinier, hein. J'ai un diplôme de jardinier, mais là où je pêche, c'est pour les noms des plantes. Je les connais, comme on me le dit, voilà, mais j'oublie vachement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je lis pas, je... ou presque pas. Donc, je les connais, les plantes, mais je ne sais pas leur donner un nom. Alors, je vais vous décrire leur forme. Il y a une espèce de sapin conique, pas les sapins de Noël classiques, là, c'est un truc plus... une esthétique un peu plus. Un peu plus arrondi, plus fourni. Enfin, ça fait un joli petit sapin en pointe, comme un cône, qui fait à peu près 2 mètres de haut. Ensuite, il y a des boules, j'ai oublié le nom aussi, c'est des conifères aussi, mais en forme de boule. Ici, il y a un coniacier du Japon en fleurs, des petites fleurs rouges. Il y a un rosier qui n'est pas en fleurs, mais qui a ses feuilles vertes encore. Il y a d'autres petites plantations, mais il faut venir voir parce que je suis très, très médiocre pour décrire les plantes, leurs noms et tout ça. Et il y a un tapis de menthe là qui ne se voit pas parce que ce n'est pas la saison, mais il y a un bout là, en pointe, la pointe du jardin, c'est que de la menthe. Il y a des plantes grimpantes, c'est du chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille là, qui masque le mur de ma terrasse, voilà, il n'est pas... Il n'est pas la meilleure saison, il faut venir voir ça dans 3 mois. Toute cette partie du jardin, là, de là à là, oh, il y a des lavandes aussi là-bas. Là, il y a un citronnier. En bas, il y a la menthe poivrée. Donc tout ça, c'est odorant ici. Et c'est vrai que là, ça ne le fait pas trop, mais dans quelques mois, ça va être bien vert, bien fleuri, parce qu'il y a des fleurs aussi. Et l'odeur est présente, vachement présente. Donc ça, c'est le fameux arbre que j'ai planté. Et ça, c'est le plot qui est posé là depuis 8 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la débroussailleuse, je vais aller au milieu de la prairie, là, enfin, du champ. C'est un champ ressuscité, en fait. Il y avait une barre, là, un bâtiment qui a été pété, il y a 8 ans presque. Et donc, ce champ, il est là depuis toujours. Les gens, ils ont peur de rentrer là-dedans parce qu'ils ont vu un serpent une fois, machin. Donc, comme ils ont un rapport à la nature assez minimal, pas tous, mais beaucoup de gens, ils connaissent rien à l'écologie, enfin, l'écosystème, les animaux, tout ça. Une couleuvre, ça leur fait peur. Ils croient qu'il y en a qui se sont enfermés. Un jour, j'ai amené une couleuvre ici que j'avais trouvée au jardin potager. Une nana qui s'était enfuie de son jardin parce qu'une couleuvre s'était emmêlée dans le filet de protection là, des légumes. Donc j'ai dit, non, je l'enlève, voilà, je l'enlève avec le filet. Et comme elle était vachement mêlée, j'avais pas le temps de faire ça là-bas, je l'ai ramenée ici chez moi, dans la terrasse. Et avec des ciseaux, je coupais les filets doucement, tatata. Il y avait mon fils, il tenait la queue, il jouait avec, tu vois, il avait 2 ans. Il avait pas peur, tu vois, donc moi je voulais pas lui faire peur avec n'importe quoi, pour rien. Et au moment que j'ai réussi à la libérer et tout, elle s'est barrée, hop, elle est partie dans la cité, là, mais dans direction la prairie. Et ça m'a valu un appel des flics. Des flics m'ont appelé sur mon portable, me disant « Oui, il paraît qu'il y a un serpent. » J'ai dit « Quoi, on vous a dérangé pour ça ?» J'ai dit « C'est une couleuvre, c'est pas... » Et elle est partie dans le champ, voilà, je veux dire. Ah bon, voilà, faire classer, pour eux, ils sont pas allés plus loin. Mais pour te dire, les gens, ils ont appelé la police et tout pour le serpent. Et les gens... Entre eux, ils se sont fait peur, les gens du rez-de-chaussée, là. Et il y en a qui ont fermé leurs terrasses, les volets et tout. Parce qu'on leur dit, attention, les serpents, ils vont rentrer chez vous et tout. Pour te dire la psychose qu'il peut y avoir. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai dit... Pose ta prose. Dispose ta pensée de sorte que la clarté s'impose. Dose le rose, dose les épines, dose jusqu'à l'osmose. N'oublie pas, arrose, goutte que coûte, ose. Mets de l'encre sur tes mots, lève l'encre, prends les flots. Rame avec ton stylo, fais courir les phrases sur l'eau. Fais des ricochets avec des rimes qui se finissent dans l'eau. Remonte à la surface comme l'oxygène.
Envoie-toi dans l'air jusqu'à ce que tu frôles l'aile d'une sterne artistique. Alors tu pourras te laisser absorber par les nuages d'altitude qui se couvrent de soleil après s'être exhibé sous la lune. Maintenant que tu es au sommet du ciel aquatique, laisse-toi tomber comme un morceau de grêle finissant sa course en gouttes d'eau sur ta feuille de papier à l'endroit même du point final de ton texte. Pose, ose, écris-toi ta vérité, poste-la sur scène, le cachet de la prose faisant foi.